Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bienvenue sur RCJ en ce lundi 2 septembre, il est 8h.
La matinale info, Elsa Parienté.
Au programme de cette édition, l'analyse de la situation en Israël avec notre correspondante sur place, Cathy Bisraor.
Après l'assassinat des 6 otages, colère, indignation, manifestation géante et grève générale aujourd'hui en Israël, une grève qui ne fait pas l'unanimité.
Puis nous réécouterons le témoignage de Shani, la sœur des derniers Rouchalmi, tuée par les terroristes du Hamas il y a quelques jours à peine et dont le corps a été retrouvé et ramené en Israël par Tsahal. Et avant ça, on va notamment revenir sur l'actualité israélienne depuis que ces 6 corps d'otages tués par le Hamas ont été retrouvés.
Le journal Margot Siffer.
Bonjour Elsa, bonjour à tous. Les corps des otages Carmel Gat, 40 ans, Eden Yerushalmi, 24 ans, Hersh Goldberg-Pauline, 23 ans, Alex Lobanov, 32 ans, Almog Sarouzi, 27 ans et Ori Danino, 25 ans, ont été retrouvés samedi soir par Tsahal et le Shin Bet. La découverte s'est faite dans un tunnel de 20 mètres de profondeur dans la région de Rafah et à 1 km de l'endroit où Farhan Al-Kadi avait été localisé. Le porte-parole de Tsahal, Olivier Rafovitch, s'est exprimé.
Cet octobre, plus de 3000 terroristes du Hamas ont envahi Israël, massacré, tué, violé près de 1200 personnes, hommes, femmes et enfants, et kidnappé 251 personnes, dont Hersh, Eden, Ori, Almog, Alexander et Carmel, qui célébraient la vie quand ils ont été brutalement kidnappés. Le Hamas détient encore 100 otages, dont des femmes, des enfants, des personnes âgées, dans des conditions inhumaines à Gaza. Nous ne cesserons en aucun cas nos efforts pour ramener tous les otages chez eux, par tous les moyens.
Les autopsies des corps révèlent que les otages ont été exécutés à bout portant entre jeudi et vendredi matin avant d'être retrouvés. Ils présentaient des blessures par balles à la tête et à d'autres endroits. Les marques sur l'un d'entre eux montraient également qu'il avait été attaché. L'état de leur corps indiquait aussi un manque d'hygiène sur une longue période. D'après une source israélienne proche des négociations, 3 des 6 otages figuraient sur une liste que le Hamas avait accepté de libérer dès le 4 juillet dernier. Il s'agissait d'Hersh Goldberg-Pauline, Carmel Gat et Eden Yerushalmi. Cependant, quelques jours plus tard, Benjamin Netanyahou aurait durci sa position, établissant de nouveaux principes pour les négociations, précise-t-elle. Vision différente du côté du premier ministre israélien. Depuis décembre, le Hamas refuse d'engager des négociations réelles, déclare-t-il en précisant que le 27 mai dernier, Israël avait accepté avec le soutien des États-Unis un accord de libération des otages, un accord qui avait été mis à jour par Washington le 16 août dernier et accepté par Israël, mais à nouveau refusé par le Hamas. « Je suis horrifié jusqu'au fond de mon âme », ajoute Benjamin Netanyahou qui promet de régler son compte au groupe terroriste. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui a lui aussi exprimé son émotion, estime que le cabinet de sécurité doit revenir sur sa décision prise jeudi dernier de persister sur l'axe de Philadelphie, qui est une ligne rouge du Hamas. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, déclare quant à lui que le cabinet n'acceptera pas un accord de capitulation qui mettrait en danger la sécurité d'Israël. Et c'est une stratégie que ne partage pas le chef de l'opposition, Yair Lapid. Ces morts sont déchirantes pour tout le pays, sauf pour ceux qui le dirigent. Au lieu de conclure un accord, ils font de la politique. Au lieu de sauver des vies, ils enterrent des otages. Au lieu de tout faire pour les ramener chez eux, Benjamin Netanyahou fait tout pour rester au pouvoir, a-t-il déclaré. Des propos qui rejoignent ceux de Naftali Bennett, le président du camp national. Celui qui fuit la responsabilité n'est pas un leader, affirme-t-il en référence au Premier ministre. Du côté du forum des familles des otages et des disparus, les otages seraient encore en vie s'il n'y avait pas eu les saboteurs, les excuses et la propagande, affirme-t-il. Il demande des comptes à Benjamin Netanyahou en l'exhortant de s'adresser publiquement à la nation et d'assumer la responsabilité directe de l'abandon des otages. Et en réaction à l'exécution de ces otages par le Hamas, le président de la Confédération générale du travail a annoncé une grève illimitée qui a débuté ce matin à 6h. Les écoles maternelles et les universités sont fermées. Les vols à l'aéroport de Tel Aviv seront en partie annulés. Des manifestations ont également débuté il y a une heure dans plusieurs villes du pays. En réponse à la demande de Bezalel, Smotrich et Benjamin Netanyahou, l'État a déposé une pétition contre cette grève générale dans l'économie. Les bars, les restaurants et les cafés ont également fermé hier soir dès 18h à Tel Aviv. 700 000 personnes ont manifesté d'après les organisateurs dans tout le pays, dont 550 000 à Tel Aviv. La police parle d'environ 80 000 personnes à Tel Aviv. Des milliers de personnes ont aussi bloqué l'autoroute Ayalon. Près de 30 personnes ont été arrêtées après des affrontements avec les policiers. Enfin, des ambassadeurs de plus de 30 pays se sont rendus hier après-midi au forum des familles des otages pour leur rendre hommage. Les États-Unis ont également réagi après l'annonce de la mort de l'otage américain Hersh Goldberg Polin. Joe Biden s'est entretenu avec ses parents John et Rachel. Ils ont été courageux, intelligents et forts, même en subissant l'inconcevable. Les dirigeants du Hamas paieront pour ces crimes. La vice-présidente Kamala Harris a quant à elle été très claire. Le Hamas doit être éliminé. Washington discuterait aussi avec le Caire et Doha d'une proposition finale qui serait à prendre ou à laisser. En attendant, près de 7000 personnes se sont rassemblées hier soir à New York pour rendre hommage aux 6 otages qui ont été assassinés. Et d'autres réactions à l'international se sont faites entendre. Emmanuel Macron a fait part de sa stupeur et de son indignation. Il faut immédiatement un cessez-le-feu et la libération de tous les otages, dont nos compatriotes Ohad Yahalomi et Ofer Calderon. La guerre doit s'arrêter, a-t-il tweeté. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU, qui exige une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, estime quant à lui que ces meurtres devraient choquer le monde entier. Le Premier ministre britannique se dit en effet pour sa part profondément choqué par ce meurtre horrible et insensé. Le Hamas doit libérer tous les otages et un accord de cessez-le-feu doit être conclu immédiatement, a-t-il plaidé. Et enfin, en France, dans le cadre de ses consultations pour nommer un nouveau Premier ministre, Emmanuel Macron recevra ce matin Bernard Cazeneuve, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand à l'Élysée. En attendant, la France a son mise à lancer ce week-end une proposition de résolution pour engager la destitution du chef de l'État. Elle fustige son refus de nommer un Premier ministre issu de la coalition arrivée en tête des législatives.
Merci beaucoup Margot Siffer. Il est 8h07 sur RCJ. Dans un instant, l'analyse de ces dernières 48 heures en Israël avec notre correspondante sur place, Cathy Bisraor.
Après l'Eurovision et pour la première fois en France, retrouvez la star israélienne Eden Golan lors de l'événement musical solidaire de la rentrée du FSJU, Les Raïm à la vie. Rendez-vous le mercredi 25 septembre à 19h au Casino de Paris. Un événement présenté par John Legend avec en guest David Ababou, Aliel, Sharon Laloum et de nombreuses autres surprises. Réservez vite vos places en ligne sur billetweb.fr/alavie, billetweb.fr/alavie ou sur fsju.org. Un concert en faveur des actions solidaires du FSJU en Israël.
Amis d'Israël, votre générosité permet de sauver des vies avec le Magen David Adom. Faites un don de 120 euros ou plus et obtenez l'assurance MDA exclusive. En Israël, vous bénéficierez de nos services gratuits pour vous et votre famille. Magen David Adom, votre don, votre assurance, notre mission commune. MDA-France.org.
MDA-France.org.
MDA France.
Association au service de la vie.
Bain et déco.
Donnez à votre salle de bain une dimension unique.
Bain et déco.
Votre cuisine ne ressemblera à aucune autre.
Le secret Bain et déco.
Un pôle d'architectes à votre écoute qui vous accompagne tout au long de votre projet.
Le plus, Bain et déco.
Les marques les plus prestigieuses.
Et une seule ambition, l'exception.
En neuf ou rénovation, nos propres équipes mènent votre projet de A à Z.
Bain et déco. Deux showrooms de plus de 500 mètres carrés, Paris 11e et Boulogne.
Bainetdeco.com.
Il est 8h09 sur RCJ, on prend la direction d'Israël pour retrouver notre correspondante Cathy Bisraor. Cathy, bonjour.
Bonjour Elisa.
Et on commence avec ces manifestations et la grève générale lancée ce matin après qu'on a appris que le Hamas avait tué ces 6 otages dont les corps ont été ramenés en Israël par Tsahal.
absolument véritablement colère énorme en Israël, peine. Et cela a provoqué des manifestations que l'on n'avait pas vues, il faut le dire, depuis plusieurs semaines maintenant, où il y avait à peine quelques milliers de manifestants qui participaient à ces manifestations pour les otages. Et hier, on a vu plusieurs centaines de milliers de personnes, essentiellement à Tel Aviv, mais pas seulement à Tel Aviv, dans presque tout Israël, en fait, du nord au sud, des manifestations véritablement géantes à Tel Aviv. C'est le périphérique Ayalon qui a été fermé par les manifestants, et la police a dû intervenir à plusieurs reprises pour ouvrir cette axe central de Tel Aviv. Une grève générale, comme vous l'avez dit, une grève qui touche les jardins d'enfants jusqu'aux hôpitaux d'Israël, en passant par l'aéroport Ben Gurion. Attention, si vous attendez des vols ou si vous devez arriver en Israël, tous les vols ont été annulés pour la matinée, et l'évaluation est qu'il y aura des perturbations tout au long de la journée, certainement jusqu'à la fin de la journée. Une grève qui doit prendre fin officiellement à 14h aujourd'hui.
Cette grève qui divise en Israël?
Vous avez été coupée, excusez-moi Elsa, j'ai pas entendu votre question.
Cette grève qui divise à la fois les Israéliens et aussi les politiques. D'ailleurs, une pétition a été lancée là par le Premier ministre et Smotrich pour aller à l'encontre de cette grève.
Absolument, c'est une grève qui véritablement divise Israël. Vous avez les gens qui veulent cette grève, qui en général ce sont les opposants au gouvernement, et une partie seulement, une partie des familles des otages, une partie importante, mais pas tout, des familles des otages, qui disent responsables de cette tragédie, de cette catastrophe, de ces 6 otages qui ont été tués 48 heures apparemment dont les corps ont été retrouvés par Tzal, c'est la faute de Benjamin Netanyahou. Et d'ailleurs, sur une des voitures du convoi de Benjamin Netanyahou, un des manifestants a écrit Netanyahou meurtrier. Et ce n'est pas le seul incident. Véritablement, beaucoup de colère contre Benjamin Netanyahou en disant c'est Netanyahou qui a le sang sur les mains, en fait, ni plus ni moins. Et de l'autre côté de l'échiquier politique, et également parmi les familles des otages, vous avez plusieurs organisations des familles des otages, comme par exemple Forum Tikva, etc., qui disent c'est se tromper complètement de but et c'est jouer le jeu de Sinoir et du Hamas. Vous jouez leur jeu. En fait, c'est ce qu'il veut. Il veut voir une division de l'État d'Israël. Les responsables de 6 otages qui ont été assassinés, c'est le Hamas. Ce sont les terroristes du Hamas et certainement pas le gouvernement israélien. Au lieu d'aller en direction d'une unité, vous faites exactement le contraire. Et cette grève est une grève qui est non seulement immorale, mais également illégale. C'est pas seulement Autriche qui le dit, mais une partie donc de la population israélienne. Je crois qu'on peut dire que comme cette grève, l'affaire des cérémonies de souvenirs pour le 7 octobre, hein, où il y aura 2 cérémonies, la cérémonie officielle nationale et la cérémonie alternative, et comme beaucoup d'autres choses en Israël depuis quelques mois maintenant, cette grève confirme une division véritablement très profonde et inquiétante, évidemment, au sein de la société israélienne.
Et de toutes les parts de cette société, on sent que c'est une douleur, bien sûr, qui s'exprime à la fois là depuis samedi, mais depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Elle est liée aussi, on a l'impression, en fait, il n'y a pas de perspective d'avenir, qu'il y a des enfants, des soldats très jeunes qui meurent tous les jours au combat, plus de 700 depuis le début de la guerre. Est-ce que cette perspective d'avenir qui peut être retrouvée, elle passe par un accord? D'ailleurs, il y a une proposition américaine qui semble être imminente. Ou est-ce qu'il y a autre chose qui se joue et qui peut apporter de l'apaisement quelque part dans cette société israélienne?
Écoutez, vous me posez une question cruciale, hein, je crois, j'ai presque envie de dire existentielle pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Je crois qu'on peut répondre de plusieurs manières. D'abord, il faut dire que l'opposition, si vous voulez, si je reviens un petit peu sur ce que je viens de dire, pour l'opposition, pour ceux qui sont contre le gouvernement, disent en fait la faute, c'est la gouvernance. La faute, c'est il n'y a pas de gouvernance actuellement en Israël. C'est un gouvernement qui ne fonctionne pas, qui a perdu une certaine légitimité depuis le 7 octobre, et ce gouvernement doit changer. Pour eux, c'est la réponse, si vous voulez, c'est la raison de la crise totale dans laquelle on se trouve. Parce que véritablement, il y a une situation qui est dramatique. La guerre à Gaza, certes, le Hamas a été profondément brisé, mais c'est une guerre, personne n'a ici d'illusion, qui durera encore des années. Gaza accompagne Israël depuis 1948 et malheureusement accompagnera encore Israël pendant certainement beaucoup, beaucoup d'années. Regardez ce qui se passe au nord avec plus de 100 000 personnes, presque 100 000 personnes qui sont déplacées. On ne voit pas non plus de perspective. Comment ramener des gens alors qu'il y a il y a eu de nouveau deux blessés graves dans un des kibbutz, dans un des moshavs frontaliers. Vous avez évidemment toute la périphérie avec l'Iran, etc. Et maintenant, la nouvelle histoire avec la Judée-Samarie, qui est en fait pas une nouvelle histoire, qui est une histoire qu'on savait, mais maintenant qui éclate au grand jour. On voit véritablement une implication directe de l'Iran en Judée-Samarie, avec une explosion du terrorisme, aussi bien en Judée qu'en Samarie, qui est évidemment très inquiétante. Et donc, face à ça, l'opposition dit le problème c'est la gouvernance. Et de l'autre côté, ils disent en fin de compte, tout ce que je viens de décrire, Israël vit au Moyen-Orient, est au Moyen-Orient. Israël c'est pas un pays européen, c'est pas la Suisse. Et de la même manière que Israël a su faire face à une situation qui était encore beaucoup plus dramatique au moment de la guerre d'indépendance en 1948, certes il s'agit de la situation la plus dramatique qu'Israël connaît depuis 1948, mais Israël devra trouver dans l'avenir des moyens pour se battre contre cet axe du mal. Israël fait face un défi qui est également le défi de l'Occident dans l'axe iranien chiite terroriste islamique extrémiste et malheureusement c'est la réalité face à laquelle Israël et les Israéliens doivent faire face.
Dernier sujet ce matin, Cathy, vous l'évoquiez, les trois attentats qui ont eu lieu en moins de 48 heures dans la zone de Hebron, une opération qui est d'envergure en Israël, notamment à Jenin, en Cisjordanie, en Judée-Samarie.
Absolument. Alors d'abord, si je commence par Jenin, c'est au nord de la Judée de la Samarie, hein, au nord de la Judée de Samarie. Et là, vous avez une opération d'envergure de Tsahal. Il faut remarquer, Elsa, que Tsahal n'a jamais pu en fait mener de telles opérations, car à chaque fois qu'il y avait une opération, le Hamas tirait des roquettes contre Israël. Et donc depuis le 7 octobre, un petit peu, si vous voulez, Tsahal a les mains libres et a lancé depuis quelques semaines et surtout depuis quelques jours une opération d'envergure. Et l'on voit véritablement une infrastructure terroriste incroyable qui s'est développée à Jenin, à Toul Karem, il faut comprendre, c'est aux portes d'Israël, c'est sur la route 6, c'est à quelques minutes de Natania ou de Kfar Saba. Et là également, une infrastructure terroriste financée directement par l'Iran. Et là, Tsahal est en train de mener véritablement une opération en sauvant en fait et en évitant des attentats à chaque opération qui est menée par Tsahal. Maintenant, ce qu'on voit à Hebron, vous parlez de deux. En effet, de trois attentats dramatiques en moins de 48 heures, deux qui ont, par chance, par miracle, n'ont pas provoqué des blessés, mais le troisième a eu trois policiers qui ont été tués. Et là également, il y a une poche terroriste également pro-iranienne dans la zone de Hebron. Pour l'instant, Tsahal agit avec parcimonie, mais l'évaluation est qu'il y aura également là des opérations d'envergure de Tsahal pour tenter de juguler cette vague terroriste.
Merci beaucoup Cathy Bisraor pour toutes ces explications. Restez avec nous sur RCJ dans un instant. Nous réécouterons le témoignage de Shani, la sœur d'Eden Yerushalmi, otage tué par le Hamas.
Best Fenêtre, vous connaissez? Oui? Non? Un peu? Alors profitez de toute l'expérience de Best Fenêtre. Porte, fenêtre, portail, baie coulissante, volet roulant. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix. Des centaines d'installations et des clients heureux. Best Fenêtre, 01 43 61 31 16 et bestfenêtre.net. Entreprise certifiée RGE Calibat. Et en ce moment, profitez de ma prime Rénov.
Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
Le KKL, c'est la réalisation du rêve de ceux qui ont cru en ce miracle que l'on appelle Israël.
Mais par-dessus tout, le KKL, c'est un amour indéfectible et un engagement pour la terre et le peuple d'Israël.
Faites partie de cette aventure en soutenant le KKL de France.
Faites votre don sur kkl.fr.
8h18 sur RCJ, on va à présent réécouter le témoignage de Shani, la sœur d'Eden Yerushalmi, otage tuée par le Hamas et dont le corps a été ramené en Israël ce week-end. Shani était venue témoigner à plusieurs reprises sur RCJ et devant des membres du FSJU en Israël pour nous raconter son histoire, l'histoire de sa sœur, ce qui s'est passé le 7 octobre dernier. Ça s'est passé pendant Shabbat, donc mon père n'était d'abord pas au courant. Je vais vous parler de ça après. Eden était au festival Nova pour travailler en tant que barman. Et... pardon. Ça me rappelle des souvenirs. Elle était allée travailler comme barman et avec une amie. À 6h30 du matin, on a entendu des alarmes à Tel Aviv. On s'est réveillés et dans le même temps, Eden nous a appelés. Elle nous a dit qu'il y avait des alarmes dans le sud où elle était pour le festival Nova. Elle nous a dit que la fête était finie et qu'ils allaient rentrer. Ok, on n'a pas pris ça très au sérieux. On entend tout le temps des alarmes ici. On s'est rendormi et une heure après, Eden nous a appelé à nouveau. Cette fois-ci, elle était en train d'hurler. On a entendu un grand nombre de coups de feu. Elle nous a dit qu'elle était au milieu d'une attaque terroriste. Elle a d'abord appelé ma mère, mais ma mère a commencé à crier. J'ai alors sauté de mon lit. J'étais vraiment effrayée d'entendre ma mère hurler. Je suis allée dans la chambre de ma mère en lui demandant « Mais maman, qu'est-ce qui se passe ?» Elle m'a dit qu'Eden était au milieu d'une attaque terroriste, qu'il y avait des tirs. Je me suis rendu compte qu'elle ne pouvait plus retenir ses cris. J'ai alors pris le téléphone et j'ai commencé à parler avec Eden. Eden m'a dit qu'elle était cachée dans une voiture avec les corps de deux de ses amies. Elles ont été tuées devant elle. Je lui ai dit de faire semblant d'être morte pour que le terroriste ne s'approche pas. C'est ce qu'elle a fait. Je pouvais entendre les coups de feu et je ne pouvais pas croire que cela se produisait. Je me souviens, j'ai mis les mains dans mes cheveux en me disant « Mais c'est pas possible, c'est pas en train de se passer. » Nous sommes une famille normale, des gens normaux. Je me suis dit peut-être que j'étais en train de rêver car je venais tout juste de me réveiller. Il était 7h30 du matin, mais c'était réel. Eden continuait de faire semblant d'être morte dans la voiture. Et après quelques minutes, elle a entendu le téléphone d'une de ses amies sonner. On avait peur toutes les deux que les terroristes viennent la voir, viennent voir ce qui se passait. Elle voulait sortir de la voiture à cause des téléphones, mais elle avait aussi très peur parce que les terroristes étaient dehors. Elle a continué à faire semblant d'être morte. Elle est restée une heure dans la voiture. Les téléphones étaient en train de sonner. Alors qu'elle gardait le silence, elle me disait qu'elle pouvait entendre le sang de l'une de ses amies coulait. Elle était vraiment paniquée et elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, Eden, ne pleure pas. Ils vont t'entendre, n'écoute que ma voix, seulement moi. Et après une heure dans la voiture, elle m'a dit qu'elle entendait quelqu'un s'approcher de la voiture. J'ai attendu au téléphone. Soudainement, j'ai entendu Eden crier à un garçon « Sauvez-moi, sauvez-moi !» Elle pensait que c'était peut-être un officier de police, quelqu'un de l'armée, mais ce n'était pas le cas. C'était quelqu'un du festival qui essayait de se cacher. Mais avec lui, elle a trouvé le courage de s'enfuir avec lui. L'appel téléphonique était alors terminé parce qu'elle n'avait plus de batterie. Je pensais vraiment l'avoir perdue, mais une minute plus tard, un numéro inconnu m'a appelé. Je décroche et c'était Eden. Elle a été intelligente. Elle a pris le téléphone de son amie décédée dont elle connaissait le mot de passe. On a commencé à parler à nouveau. Elle a continué à courir. Elle m'a dit qu'elle et le garçon du festival étaient en train de courir et qu'elle pensait que les terroristes l'avaient attrapé, lui. Elle a continué à courir pendant 10 minutes. Mais il n'y avait aucun endroit pour se cacher. Donc elle a continué à courir jusqu'à trouver un buisson. Elle s'y est cachée dans une position fœtale comme un bébé. Eden est vraiment petite et fine, mais le buisson était encore plus petit. Son dos dépassait, on pouvait le voir. Mais c'était la seule cachette. J'aimerais que vous écoutiez un enregistrement de son téléphone. Vous pouvez entendre Eden respirer, beaucoup de coups de feu. Vous pouvez penser qu'elle est en train de courir, mais à cause de sa respiration, elle est déjà en position fœtale. C'était parce qu'elle était tellement effrayée qu'elle respirait si fort. C'est ça que j'ai entendu pendant toute la conversation avec Eden. Quand elle était dans le buisson, après plusieurs minutes, elle m'a dit que des fourmis lui montaient sur le visage, la mordaient. C'était très douloureux et elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit, Eden, arrête de pleurer. C'est juste des fourmis et j'essayais de la calmer. Elle m'a écoutée, elle a arrêté de pleurer. Elle est restée dans ce buisson pendant 2 heures et demie. La conversation a duré 3 heures et demie, de 7h30 à 11h. À la fin, elle m'a dit qu'elle entendait les terroristes s'approcher d'elle. Elle m'a dit, Shani, ils m'ont attrapée en hébreu. Ils lui ont dit de venir. Ils ont pris son téléphone. J'ai enregistré ça aussi. À la fin, ma petite sœur était avec moi, on se tenait la main, Eden ne parlait plus, et ma petite sœur s'est mise à crier. Après ça, on est allé voir notre mère, qui était dans le jardin. On ne l'avait pas laissée entrer dans la chambre. On est allé la voir. On lui a dit qu'ils avaient enlevé Eden. Elle s'est mise à pleurer. Tous nos voisins sont venus. L'un des voisins est allé chercher notre père. Il ne répondait pas parce que c'était Shabbat. C'était le témoignage de Shani, la sœur d'Eden Yerushalmi, assassinée par le Hamas en captivité avec 5 autres otages, pardon, et on retrouvera leur portrait dans le journal de midi tout à l'heure. Et à 11h, vous retrouverez le rendez-vous culture présenté par Sandrine Seban qui reçoit Pierre Assouline pour son livre « Comment écrire, conseils techniques et secrets d'écriture ». On se retrouve donc, quant à nous, à midi. Passez une belle journée à l'écoute de notre antenne sur RCJ.
Vous avez plus de 60 ans et habitez Paris ou l'Île-de-France? Vous avez besoin d'aide pour réparer une fuite, gérer votre administratif, vous déplacer ou vous sentir en sécurité à votre domicile? Le kiosque solidaire vous met en relation avec des professionnels fiables et bienveillants et vous accompagne dans la résolution de vos problèmes du quotidien. Plus de stress, plus d'arnaques. Contactez le kiosque solidaire, service du FSJU, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah au 01 42 17 10 80. 01 42 17 10 80. Parce que votre confort est au cœur de notre engagement.
Un média du Fonds social juif unifié.
Il est 8h30, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci de votre fidélité. Comme chaque matin, nous sommes le lundi 2 septembre 2024, 332e jour de guerre et toujours sans un otage dans la bande de Gaza. Ne les oublions pas. Toute l'actualité, bien sûr, avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le 332e jour de guerre. Israël à l'arrêt, l'arme de la protestation pour réclamer au gouvernement un accord sur les otages. C'est la grève générale. L'aéroport Ben Gurion n'est pas fermé, mais des perturbations sont à prévoir dans les transports. Idem sur les lignes de bus et de tram. Les jardins d'enfants sont fermés. Les écoles fonctionnent partiellement ce matin. Les hôpitaux fonctionnent selon le régime du Shabbat, mais certaines municipalités ont choisi de ne pas participer à la grève. C'est le cas notamment pour Jérusalem et Netanya. Également Tel Aviv où pourtant 300 000 manifestants ont battu le pavé hier soir. Les 6 otages retrouvés morts dans les tunnels de Gaza ont été assassinés 72 heures avant, à bout portant, avant donc leur découverte par Tsahal. L'annonce de trop avec ce qui domine, c'est que ces morts auraient pu être évitées. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, s'est adressé à la population pour lui dire que c'est le Hamas qui bloque et que les efforts pour un accord continuent. Aux États-Unis, des responsables américains ont déclaré au Washington Post que des discussions sont en cours avec l'Égypte et le Qatar. Le but est d'établir les grandes lignes d'un accord sur les otages et le cessez-le-feu. Accord qualifié par Washington de « à prendre ou à laisser ». Selon un haut responsable de l'administration Biden, les Américains prévoient d'en présenter les grandes lignes à Israël et au Hamas dans les semaines à venir. Ils auraient pu et auraient dû être sauvés. Message de milliers de personnes qui se sont rassemblées sur Columbus Square dans le centre de Manhattan à New York pour rendre hommage aux otages assassinés par le Hamas lors de cette manifestation organisée par le siège des familles des otages à New York. Orna Neutra, la mère de l'otage israélo-américain Omar Neutra, a adressé notamment un message à la famille Hersh Goldberg. Pauline, même dans les moments les plus difficiles, Rachel nous a donné de l'espoir, a-t-elle dit. En Allemagne, l'extrême droite, l'AfD, s'est largement imposée hier lors des élections en Thuringe, dans l'est du pays. Le parti talonne les conservateurs en Saxe. Ce scrutin est synonyme de coup dur pour la fragile coalition d'Olaf Scholz. Bernard Cazeneuve, Premier ministre, en tout cas, il doit être reçu ce matin par Emmanuel Macron. Figure de l'ère François Hollande, les écologistes et LFI rejettent par avance son éventuelle nomination à Matignon. Il offre aussi l'avantage d'avoir été aux fonctions en tant que ministre et de ne plus faire partie aujourd'hui d'aucune formation politique. Et puis enfin, c'est la rentrée des classes. 12 millions d'élèves retournent sur les bancs de l'école en France.
Merci beaucoup Eva Soto et on souhaite une bonne rentrée à tous les petits écoliers qui vont prendre le chemin de l'école. Bon courage à vous, vous restez avec nous.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Et oui, merci de votre fidélité. Ne bougez pas comme chaque lundi dans quelques instants. L'analyse de Raphaël Jérusalemi, analyste défense sur I24 News, qui va revenir avec nous sur cette découverte terrible dans la bande de Gaza, dans un tunnel de Rafah. 6 otages qui ont été retrouvés, assassinés par le Hamas. On va en parler. Corinne Lepage, également sa chronique de retour pour cette nouvelle saison à partir de 8h45. On va lui poser quelques questions autour du nouveau gouvernement à venir, le futur Premier ministre. Alors, est-ce que ce sera Bernard Cazeneuve? Est-ce que ce sera Xavier Bertrand, toutes les options restent sur la table. À tout à l'heure.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Tous les matins, à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours, à 7h45 sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous sur Radio J. 332e jour de guerre, Israël à l'arrêt. L'arme de la protestation, en effet, pour un accord sur les otages, c'est la grève générale. Et pour parler de l'actualité en Israël, nous sommes avec Raphaël Jérusalmi, analyste défense sur I24 News. Bonjour Raphaël. Est-ce que vous m'entendez ? Bonjour Raphaël.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vous entend parfaitement. Merci de répondre à nos questions ce matin sur Radio J. Alors, on l'apprenait, de nouveaux otages doivent être enterrés aujourd'hui. Les 6 retrouvés morts dans les tunnels de Gaza ont été assassinés 72 heures à bout portant avant leur découverte par Tsahal. Ça a provoqué beaucoup de colère, Raphaël, en Israël. Et on l'a vu encore avec ces manifestations hier. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Qu'est-ce que ça vous inspire de voir aussi toute cette colère qui anime l'État d'Israël ?
Eh bien, le 7 octobre est arrivé en Israël ce qu'on n'aurait jamais rêvé arriver, ces massacres du 7 octobre. Et aujourd'hui, avec cet enterrement des otages, arrive une fois de plus ce qu'on n'aurait jamais pensé arriver en Israël, c'est que soient abandonnés les citoyens israéliens par leur propre gouvernement. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une tradition israélienne de ne jamais laisser en arrière le moindre blessé, le moindre prisonnier, le moindre même citoyen. Ça peut même être un touriste israélien qui tombe d'une falaise dans un périple au Pérou. Peu importe, l'État d'Israël a toujours eu comme tradition sacrée de sauver ses citoyens, la vie sacrée, la valeur juive de la sacralité de la vie. Et donc le peuple d'Israël aujourd'hui est sous le choc, car ses valeurs les plus profondes sont entachés par un échec politique, gouvernemental. Je rappelle que le 27 mai dernier, il y avait un accord du Hamas pour possible libération des otages en 3 pinces. Un accord qui était très difficile pour Israël, où on donnait énormément au Hamas, mais le Hamas l'avait accepté, et qu'ensuite une clause a été ajoutée à cet accord qui a fait tomber tout à l'eau. Cette clause qui a été instaurée par le Premier ministre l'a été à l'encontre des avis professionnels. Je ne veux pas parler politique ici, je veux juste parler sécurité. Et donc l'avis professionnel du chef de l'état-major de Tsahal, du ministre de la Défense, des chefs des services secrets avait été que cette clause était inutile, qu'elle allait faire capoter les négociations et qu'en plus, Tsahal, le chef de l'état-major le dit juste à ce matin même, il l'a répété, Tsahal peut se retirer de l'axe de Philadelphie, Tsahal peut évacuer Gaza militairement, quitte à rentrer à nouveau s'il y en a la nécessité. Mais aujourd'hui, après l'affaiblissement du Hamas, la gifle infligée au Hamas, la priorité absolue, sécuritaire, nationale, morale, est la libération des otages. Et cet assassinat de 6 otages est la preuve de l'urgence du problème.
Alors, responsabilité évidemment du Hamas qui a assassiné ses otages, et responsabilité, vous le dites, on le comprend, de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien d'ailleurs, qui est très divisé sur la question avec ses ministres. On l'a vu notamment avec Yoav Gallant, le ministre de la Défense, qui a réclamé du cabinet qu'il modifie sa décision et qu'il accepte de se retirer de l'axe de Philadelphie. Est-ce que Benjamin Netanyahou peut céder, Raphaël, selon vous, sur ce point ?
Il ne cédera pas, puisqu'il a montré déjà jusqu'à présent qu'il s'obstine, et on est arrivé au point, et c'est là que ça peut lui en coûter, c'est que le chef de la Histadrout, le fait que la Histadrout déclare une grève générale, c'est presque quelque chose presque de sans précédent en Israël, c'est-à-dire il y a ici un geste qui est pas social ou économique, la Histadrout c'est un syndicat en fin de compte, et bien là il y a une entrée en guerre de la Histadrout contre le gouvernement qui montre à quel point il y a un problème grave sur la gestion. Je rappelle, la responsabilité d'un gouvernement, quel qu'il soit, c'est d'assurer la sécurité de ses citoyens. Il n'y a rien qui peut être plus important aujourd'hui pour le Premier ministre que de sauver les otages. S'il ne le fait pas, il est en situation d'échec. Aujourd'hui, il a perdu le contrôle de sa coalition. Il a perdu le contrôle de son gouvernement, de sa position. Il a perdu le contrôle de l'économie. Et si ça continue, il va perdre le contrôle de la population israélienne. Je veux dire, il est en pleine débandade. et il s'obstine à voir. Il a peut-être raison sur un certain plan sécuritaire et militaire de vouloir insister sur une présence militaire sur la frontière égyptienne. Mais d'un autre côté, cette présence peut être reportée à plus tard. On peut prendre ce risque, on est obligé de prendre ce risque pour libérer le pot d'otages qui reste encore vivant, s'il y en a, et dans quelle situation ils se trouvent en ce moment, je ne veux même pas le savoir. Et c'est la raison pour laquelle le président Biden, le président américain, fait une dernière offre, une offre de la dernière chance. Je pense que Washington va appeler Jérusalem en demandant une fois plus à Benjamin Netanyahu d'assouplir sa position, même si, il faut bien le reconnaître, de l'autre côté, vous avez évidemment Sinoir qui, lui, refuse toute négociation. Et aujourd'hui, il se peut qu'il refuse parce qu'il est en position de force. Il fallait accepter le 27 mai, prendre l'occasion de cette acceptation.
Et qui demande davantage, Sinoir, désormais, qui demande l'évacuation du couloir de Netzarim.
Bien sûr, ça fait monter les enchères. Et les manifestations israéliennes de la population font monter les enchères, bien sûr, parce qu'on voit que maintenant, les Israéliens sont prêts à payer n'importe quel prix pour éviter d'autres meurtres d'otages. Donc ça fait monter les enchères, ça enhardit Sinoir, ça le fait de nouveau espérer à une guerre multifrontale, à une déstabilisation régionale, et on voit en Judée-Samarie aujourd'hui une montée de boucliers des terroristes, de toutes les cellules qui sont activées, avec des tentatives incessantes d'attentats en Israël, tout ça pour faire monter à ébullition de nouveau, car il y avait une sorte d'accalmie en fin de compte, les deux, trois derniers jours, après la peur qu'on a eue d'une attaque même de l'Iran, et donc de nouveau refaire monter à ébullition la situation générale.
Eva Soto, vous avez une question pour Raphaël.
Bonjour Raphaël Jérusalmi. Justement, vous parlez effectivement de la Judée-Samarie, de ce qui s'y passe, de cet échec sécuritaire du 7 octobre. On a appris qu'il y avait plus de 100 brèches par lesquelles étaient passés les terroristes et des civils palestiniens ce jour-là, au nombre de 7000. Justement, à qui peuvent se fier les Israéliens aujourd'hui? Parce qu'il y a peut-être aussi ce problème-là, hein, une perte de confiance globale qui s'exprime.
Je pense que si l'on voit les manifestations, mais aussi il faut pas oublier que c'est pas tout le monde dans la rue aujourd'hui en Israël. Il y a des avis différents, il y a des gens qui soutiennent le gouvernement, il y a l'opposition au gouvernement, mais dans l'ensemble, ce que l'on peut constater, n'oublions pas qu'il y a aussi des dizaines de milliers d'évacués israéliens au sud et au nord du pays. C'est énormément de personnes qui en ont un petit peu gros sur la patate depuis des mois, qui sont plus chez eux à la maison. Donc dans l'ensemble, malgré la grosse bavure du 7 octobre, Tsahal a regagné la confiance des Israéliens. Les Israéliens ont confiance dans Tsahal, les Israéliens ont confiance dans les services de sécurité israéliens malgré la bavure du 7 octobre. Ils n'ont plus confiance au niveau politique, et je ne fais pas de politique, c'est-à-dire je ne parle pas spécialement de Benjamin Netanyahu, du Likoud et de la coalition. Je parle de tous les politiciens, inclus l'opposition, inclus Yair Lapid, tous les politiciens, tous les députés, tous les ministres d'Israël n'ont pas été capables de s'unir, d'être solidaires en temps de guerre pour trouver une solution au conflit et pour trouver une solution à la libération des otages. Ça n'est jamais arrivé avant en Israël. Dans toutes les guerres d'Israël, dans toutes les grandes crises sécuritaires d'Israël, il y avait une union de l'opposition, de la coalition, de tous les partis politiques qui n'a pas eu lieu cette fois-ci. C'est donc un échec. Nous avons élu ces personnes, qu'ils soient dans l'opposition ou dans la coalition, pour qu'ils défendent l'État d'Israël, pour qu'ils s'occupent du bien de l'État d'Israël. Ils ne font pas leur travail, il n'y a plus de confiance en eux, et résultat des courses, quelque chose de jamais vu, la Hestadrout, un syndicat social, économique, rentre dans la danse et met le pays en grève.
Il y a ce contrat moral dont vous avez parlé, hein, effectivement, un Israélien, où qu'il se trouve, sait qu'on viendra le chercher. Ça fait partie du contrat moral de l'État, ça fait partie aussi du contrat moral du sionisme. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, Raphaël Jérusalmi, quelque chose qui s'est cassé à ce niveau-là. Il y avait déjà une fracture le 7 octobre. Est-ce qu'il y a quelque chose de cassé et comment ça pourrait être réparé?
Absolument cassé. J'ajouterais qu'il y a aussi la motivation de nos soldats. Nos soldats, lorsqu'ils combattent, prennent des risques encore plus grands, sachant que si, par malheur, ils sont capturés, Israël fera tout pour les libérer, comme ça a été le cas de Gilad Shalit. Et donc, aujourd'hui, comme il y a eu le 7 octobre, aujourd'hui aussi, une fracture, une brisure extrêmement grave dans la conscience collective israélienne. Jamais, jamais nous aurions pensé qu'il y aurait ces 6 otages assassinés dus à un échec. Peu importe que si Noir s'obstine, peu importe que nous avions affaire à des terroristes, il y a eu un échec israélien dans cette affaire des otages, un échec cuisant qui aujourd'hui est tragique, horrible, et qui laissera une grande, grande cicatrice sur la société israélienne.
Merci beaucoup, Raphaël Jérusalmi. Merci d'avoir été avec nous et pour ces précisions. On vous retrouve évidemment chaque semaine, chaque lundi. Donc je vous dis à la semaine prochaine avec grand plaisir.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous sur Radio J, merci de votre fidélité. On va à présent parler de l'actualité politique avec Corinne Lepage qui nous a rejoint en studio pour cette nouvelle saison et qui a très bonne mine. Corinne, bonjour.
Merci beaucoup.
Vous êtes en forme, ça va ce matin?
Très, oui, avec une patte folle, mais autrement ça va.
En tout cas, ça nous fait plaisir de vous accueillir pour cette
de nouveau là.
Nouvelle saison, effectivement, chaque lundi à 8h45. Alors, on se pose la question du futur Premier ministre. Est-ce que ce sera annoncé ce soir? Est-ce que ce sera annoncé demain? En tout cas, on sait que le président de la République, Emmanuel Macron, reçoit aujourd'hui successivement, à partir d'ailleurs de maintenant, à 8h45, Bernard Cazeneuve, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Xavier Bertrand. Mais le sujet n'est pas tant celui de la personne, selon vous, que du programme. Le programme, c'est aussi très important, Corinne.
À mon avis, tout ce qui a buté avec le nouveau Front populaire en dehors des outrances de l'EFI, parce que personne ne veut de l'EFI au gouvernement, c'est le programme. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Premier ministre qui va être nommé est en capacité de faire et de faire accepter. Voilà, c'est ça le vrai sujet. Et je trouve qu'on ne parle pas beaucoup du programme, des programmes possibles, parce que les marges de manœuvre sont quand même très étroites, et qu'on parle beaucoup plus des personnes.
Oui, c'est vrai. Mais en fait, ce qu'on voit aussi, c'est qu'Emmanuel Macron peut-être joue la carte de la prudence en faisant appel à des anciens qui ont de l'expérience. Bernard Cazeneuve, quand même, qui est quand même connu du grand public, qui a l'expérience de l'Assemblée nationale aussi.
La question s'est posée, est-ce que le gouvernement dirigé par un techno, c'est-à-dire non politique ou politique? Bah, écoutez, vu l'ambiance actuelle en France, un gouvernement purement techno, c'est quand même très compliqué. Parce qu'il faut parfaitement bien comprendre le fonctionnement de l'Assemblée nationale, avoir une parfaite connaissance des partis politiques, des gens qui décident au sein de ces partis politiques. Donc un politique, c'est bien, me semble-t-il. Oui. Bernard Cazeneuve, il coche, on va revenir dessus quand même, beaucoup de cases. Xavier Bertrand aussi, c'est un politique aguerri. Mais je pense que la majorité sur laquelle Cazeneuve pourrait s'appuyer est beaucoup plus large que celle de Bertrand.
Alors, quels sont les sujets majeurs, Corinne? Ceux qui sont à l'agenda général et ceux qui sont à l'agenda des Français?
Alors, agenda général, il y en a un, c'est le budget.
Oui. Bon.
On est quand même avec une dette abyssale, on a 3000 milliards, on est sous menace d'un contrôle. Alors, on a déjà le contrôle de la Commission européenne, on est sous menace d'un contrôle international du FMI. Donc, il est tout à fait clair que la question budgétaire des économies à faire, c'est une question à laquelle on ne peut absolument pas échapper. Ensuite, il y a évidemment les questions européennes qui me paraissent tout à fait importantes. Et puis, pardonnez-moi de revenir à mon dada, je pense qu'on peut pas continuer à faire l'impasse sur les politiques climatiques. Et dans les projets qui ont été annoncés, comme par hasard, c'est le climat qui paye l'essentiel des économies budgétaires. Il y a peut-être d'autres postes à aller chercher. Ça, c'est les sujets généraux. Ensuite, ce dont parlent les Français. Les Français, ils parlent de pouvoir d'achat. Les Français, ils parlent de retraite. Et là, on a une difficulté, puisque, oui, il faut très certainement donner des gages aux Français qui n'ont pas du tout accepté, surtout la manière dont la réforme des retraites a été votée. Mais financièrement, on ne peut pas revenir sur les économies que permet de réaliser la réforme des retraites. Donc, il faut trouver des modalités d'amélioration, mais ça me paraît très difficile qu'on mette en cause la réforme. Ensuite, il y a toutes les questions d'ordre public. Vous avez vu le succès de l'AfD en Allemagne hier, et la montée en puissance de ce nouveau parti, qui est à la fois de droite et de gauche, c'est-à-dire, je ne parle pas de l'AfD, hein, je parle du BFD, je crois que ça s'appelle, qui à la fois a des thèses extrêmement fermes sur l'immigration, l'ordre public, et en même temps, qui est très progressiste sur le plan social. Je pense que c'est cette équation-là que recherchent les Français, non pas d'extrême droite, mais d'avoir un terme à des dérives qui sont très largement... qui sont
autour de l'insécurité, l'immigration.
Voilà, et puis quand même la montée en puissance des frères musulmans en France...
De l'islamisme.
De l'islamisme radical, je ne parle pas de l'islam, je ne parle pas de la religion, je vais être tout à fait clair là-dessus, il n'y a pas de problème avec les musulmans et l'islam, il y a un problème avec une politique qui est celle de l'islamisme radical. Et celle-là, les Français veulent qu'on s'y attaque. Voilà, je crois que ça, c'est vraiment les grands sujets. Le climat aussi est une des grandes préoccupations des Français, surtout chez les jeunes.
Alors, pour terminer très rapidement, Corinne, on sait donc si le futur Premier ministre, en tout cas le futur Premier ministre, aura la tâche compliquée, si c'est Bernard Cazeneuve, de trouver des soutiens dans une Assemblée nationale morcelée, où le soutien d'une partie du NFP en tête avec 193 députés, mais loin de la majorité de 289, pourrait aussi s'avérer crucial. Qui est en capacité, selon vous, aujourd'hui, de répondre à ces logiques,
hein? Moi, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. J'espère que c'est Bernard Cazeneuve qui sera nommé, parce qu'il me semble que c'est lui, même si je ne partage pas toutes ses thèses, de loin pas, notamment sur l'environnement, qui sera nommé, parce que je pense que c'est lui qui coche le plus de cases, que c'est à la fois un homme qui sera capable de défendre ses positions, y compris à l'égard du président de la République, mais qui est également en capacité de trouver des solutions et des compromis. C'est un homme qui a vécu les attentats, donc il sait très bien ce que c'est que les questions d'ordre public. Il est de gauche, assumé, et d'une gauche qui refuse radicalement LFI. Et je pense que
c'est un modéré, comme on dit.
Voilà, et donc je pense qu'il y a un certain nombre de députés socialistes, que ça plaise ou que ça plaise pas, qui pourront le rejoindre, la tendance Glucksmann évidemment, mais peut-être d'autres. Alors évidemment, ça va faire une scission au sein du nouveau Front Populaire. En ce qui me concerne, je dirais tant mieux. Mais en tout cas, il pourrait avoir à la fois un soutien, voire sans participation, mais pas d'opposition de la part des LR, et pas de menace de renvoi de la part du Rassemblement National.
Merci beaucoup Corinne Lepage, merci d'avoir été avec nous, et on verra peut-être ce soir si on aura le nom du futur Premier ministre. Je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous sur Radio J. Comme tous les matins, la chronique c'est bon pour la santé, et c'est le retour en direct du docteur Serge Rafal. Bonjour Serge.
Bonjour Ilana.
Et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Ça fait déjà quand même pas mal d'années qu'on se connaît, Serge, et c'est toujours avec grand plaisir qu'on fait cette émission médicale à deux. En tout cas, je suis contente de vous retrouver.
Moi aussi, là.
Alors, émission de rentrée avec, c'est vrai, une actualité médicale qui n'a pas fait relâche, hein, Serge, cet été. Et vous allez revenir cette semaine sur des événements qui vous ont marqué tout l'été. L'épidémie de coqueluche, la variole du singe, le fameux Mpox, hein, l'échec du bivaccin grippe Covid du laboratoire Pfizer. Mais vous souhaitiez ce matin profiter du déroulement actuel des Jeux Paralympiques pour faire un petit point sur le handicap qui, d'une façon ou d'une autre, concerne quand même 12 millions de personnes en France et 1,2 milliards d'individus dans le monde. Alors, est-ce que vous pouvez, Serge, nous détailler la classification du handicap, hein ?
Oui, il en a. Alors, cette classification internationale des handicaps, la CIH en majuscule, a été créée en 1980. Elle définit le handicap en trois catégories. Une déficience psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à l'aspect lésionnel du handicap. L'incapacité, avec la réduction partielle ou totale d'une capacité, correspond, elle, à l'aspect fonctionnel du handicap. Le désavantage ou le préjudice avec ses problèmes d'insertion sociale, scolaire ou professionnelle se réfère à l'aspect situationnel du handicap. Alors, une révision a été proposée par l'OMS en 2001 afin de préciser le rôle des facteurs environnementaux dans la situation de handicap et d'affirmer que l'invalidation est le résultat d'une interaction, parfois, entre les possibilités d'un individu et son environnement. Et donc, la CIH a laissé sa place à la CIF, ou Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, qui a été adoptée par 200 pays. Alors là, on trouve quatre catégories distinctes, selon que sont concernés le fonctionnement du corps, que ce soit mental, sensoriel, digestif, les structures anatomiques, où on va mettre en jeu ou limiter le mouvement, l'activité, la participation, la communication, et enfin les facteurs environnementaux potentiellement handicapants. Il y a en effet, parfois ou souvent, la rencontre entre une déficience, une situation de la vie courante et un environnement inadapté. Prendre le métro à Paris ou se rendre dans une salle de spectacle ou au Parc des Princes, ça constitue une épreuve ou même un exploit pour une personne âgée, malade ou en situation de handicap.
Alors, une classification en 5 catégories plus 1.
Plus une, oui, c'est exactement cela, Ilana. On trouve en effet le handicap moteur, c'est à lui qu'on pense en premier, mais ça n'est pas le plus fréquent. Ça touche 3,5 millions de personnes, 650 000 sont équipées d'un fauteuil roulant. Alors, il se caractérise par une capacité limitée pour un individu de se déplacer, ce qu'on appelle les PMR, les personnes à mobilité réduite. Ça les empêche de réaliser certains gestes, de bouger partie ou l'ensemble des membres. Cette atteinte à la motricité, elle est partielle ou totale, temporaire ou définitif, selon sa cause. Alors, on trouve ici les paralysies, les amputations, les IMC, les infirmes moteurs cérébraux, les myopathies. Le handicap sensoriel, le second, est le plus répandu. Il constitue une grande source d'isolement social. Alors, il est visuel, la malvoyance et la cécité. C'est un peu plus de 60 000 personnes en France qui sont aveugles. Il touche 1,7 million de personnes. Il peut être auditif, partiel ou total. Et là, il touche 5,5 millions de personnes. Mmh. Troisièmement, le handicap mental. Il consiste en une déficience des fonctions mentales et intellectuelles. Alors, il entraîne des difficultés de réflexion, de compréhension, de communication. La cause la plus courante de ce type d'handicap, c'est la trisomie 21, avec un peu plus de 50 000 cas en France et un peu plus de 500 nouveaux cas chaque année. Le handicap psychique, maintenant, est la conséquence d'une maladie et non d'une déficience. Alors, les troubles peuvent être momentanés ou durables. On trouve ici les grandes angoisses, la dépression, les troubles bipolaires, la schizophrénie. Le handicap cognitif, par définition, c'est la conséquence de dysfonctionnement des fonctions dites cognitives, avec des troubles sur l'attention, la mémoire, le langage, la perception, la capacité à identifier, à se situer, à s'adapter au changement. Il ne s'agit pas proprement parler d'une déficience, mais d'une difficulté à mobiliser ses capacités. On trouve ici l'autisme et tous les troubles 10, D, Y, S. Et enfin, le handicap lié à une maladie, qu'elle soit respiratoire, digestive, infectieuse, neurologique, la sclérose en plaques ou la sclérose latérale, Le handicap évolue avec le temps et la pathologie peut entraîner des combinaisons. Alors, il y a des plurihandicaps. Quelqu'un qui est sourd et aveugle a surdit cécité, ou des polyhandicaps a fait une déficience motrice et mentale, ou une déficience sensorielle et cognitive.
Quelle est la classification, docteur, des athlètes qui participent justement aux Jeux paralympiques ?
Ils appartiennent à trois catégories principales. Il en a les athlètes handicapés physiques, qui ont été amputés, qui ont une lésion de la moelle, qui ont une paralysie cérébrale, les IMC, des affections qui provoquent des troubles locomoteurs, la polio, une dystrophie, une différence de hauteur des jambes d'au moins 7 cm, ceux qui sont de petite taille. Les athlètes malvoyants et non-voyants, les sourds et malentendants, curieusement, ne sont pas présents, ils ont leur propre jeu à eux. Mmh. Troisièmement, les athlètes qui présentent un handicap mental ou psychique avec un QI inférieur à 75, reconnu avant 18 ans. Mais ont été créées de nombreuses sous-catégories pour tenter d'égaliser les handicaps et donc les chances de victoire. Alors vous avez vu, 4400 athlètes participent à ces jeux et 600 médailles d'or vont être distribuées.
Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ?
Le handicap, vous l'avez dit, Ilana, touche énormément de monde, 12 millions de personnes d'une façon ou d'une autre en France. Il risque en outre de s'accentuer avec le vieillissement de la population. Rappelons que d'après les prévisions des Nations Unies, nous assisterons d'ici 2050 à un doublement sur la planète du nombre des personnes de 65 ans et plus. Et on va passer de 700 millions en 2020 à 1,5 milliard, ce qui évidemment influera sur la fréquence de certains des handicaps dont nous venons de parler. Alors, un espoir, espérons que cette magnifique cérémonie d'ouverture inclusive servira de déclic pour un changement indispensable des mentalités à l'égard du handicap. Mais vous l'avez compris, il reste encore du chemin à faire.
Eh bien, merci beaucoup Serge Raffal, le docteur de Radio J. D'ailleurs, on parlera du handicap demain matin avec notre invité à 8h30, Patrick Segal. Il a été délégué interministériel sous Jacques Chirac, inspecteur pendant 15 ans à l'IGAS. Il a participé au Para-JO. Donc, on en parlera avec lui. Merci Serge. L'information continue, évidemment, avec Léa Moscona.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
J'aime beaucoup.
C'est gentil, merci.
J'aime beaucoup ce look.
Oui,
merci.
La veste est très vraiment...
Working girl.
Ouais. Ouais. Working girl, ouais. Working sexy girl.
Oh,
ouais. Voilà, working
c'est la
sexy
girl. Très.
Bon bah écoutez, j'ai à peine le temps de vous dire bonjour.
Donc, bonjour, bonjour. C'est un plaisir de vous faire ce petit lien avec
et
vous.
Et à tout de suite, aujourd'hui on parle tout de la beauté, je crois.
On va parler beauté, santé, bien-être le lundi, toujours en douceur.
À tout de suite.
Radio J.
Bonjour, c'est Lise Gutmann.
Le 10-11, Lise Gutmann.
Ravie de vous retrouver tout à l'heure au programme Judaïsme, divertissement, communauté.
Yoshi.